40% des Turcs considèrent les États-Unis, le partenaire de l'OTAN, comme la principale menace. Et seuls 23% d'entre eux ont une opinion favorable de l'OTAN.
Les relations entre la Turquie et la Russie se caractérisent d'un côté par de la coopération et de l'autre par des conflits. La Turquie ne prend pas part aux sanctions contre la Russie. Elle maintient le dialogue avec la Russie, ce qui est très important. Cependant, elle n'a pas approuvé l'annexion de la Crimée, par exemple. La Turquie a soutenu et continue de soutenir l'Ukraine.
La Russie a commencé à renforcer son partenariat stratégique avec les Turcs il y a de ça plusieurs années déjà. Les deux pays collaborent étroitement en matière de politique énergétique et d'économie. Ils échangent dans le domaine militaire et dans le domaine des renseignements. Et tout cela nuit à l'Alliance. Je n'ai jamais entendu qu'une nation ou qu'une capitale ait sérieusement envisagé de menacer la Turquie d'expulsion, par exemple. Ou qu'on ait essayé de trouver des stratagèmes pour faire comprendre à la Turquie que le statut de membre de l'OTAN n'est pas gravé dans le marbre.
Profite du centenaire de la République de Turquie pour faire une démonstration de sa puissance militaire. La Turquie est la deuxième armée de l'Alliance après les États-Unis et de loin. L'armée française arrive troisième, juste derrière la Turquie, avec moitié moins de troupes. C'est-à-dire que la Turquie ne dépend pas de l'OTAN sur le plan militaire.
Il n'y a jamais eu en Turquie, ni par le passé ni actuellement, de débat concernant son éventuel retrait de l'OTAN. À ce jour, le gouvernement ne s'est jamais engagé dans ce genre de débat.
Je suppose que, d'un point de vue stratégique, il est bien plus avantageux pour la Turquie de garder un pied dans l'Occident, tout en conservant son statut de puissance régionale. Ça lui assure une sorte de double couverture. D'un côté, du fait de son statut, elle joue les équilibristes. Elle peut par moments monter l'Ukraine contre la Russie et à d'autres, la Russie contre l'Ukraine. Elle joue aussi de sa position entre la mer Noire et la Syrie. D'un autre côté, elle est protégée par l'OTAN et par l'Occident. C'est un gros avantage stratégique. Y renoncer réduirait sa marge de manœuvre, alors que pour l'instant, elle réussit à tirer son épingle du jeu. Je doute que ce soit une position réaliste pour la Turquie, du moins pour Erdogan, qui joue parfaitement le jeu.
Erdogan est un homme raisonné et calculateur. Avec l'OTAN, il a la possibilité d'intervenir dans des décisions d'enjeu international. C'est un moyen de pression vis-à-vis de la Russie, mais également vis-à-vis de l'Europe. La Turquie siège avec les pays les plus puissants du monde. Pourquoi quitterait-elle ce club ?
Et de la puissance et de l'avenir de l'Alliance.
We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first.
Les États-Unis jouent un rôle de coordination très important au sein de l'OTAN. Le président est la personne la plus importante de l'Alliance. Sans un président américain et tout ce qu'il signifie en termes de pouvoir militaire et nucléaire, l'Alliance ne serait plus que l'ombre d'elle-même.
Ce serait différent si c'était l'Italie, par exemple, qui décidait de se retirer. Là, on parle bien du retrait des États-Unis. C'est dramatique de constater que ce qu'on redoutait le plus, à savoir le départ d'un membre de l'OTAN, concerne justement les États-Unis.
So I think that's inappropriate also. You know, we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody, and yet we're paying a lot of money to protect. Now, this has been going on for decades, and then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. And I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas.
présent lorsque la situation s'envenime au deuxième jour du sommet de l'OTAN.
En chemin pour me rendre à la résidence de notre ambassadeur à Bruxelles, où le président séjournait, et il m'a téléphoné. Aujourd'hui, on devrait faire quelque chose d'historique. On devrait se retirer de l'OTAN. J'étais surpris et j'ai répondu, parlons-en, je suis presque arrivé. Dès que j'ai raccroché avec le président, j'ai appelé Mike Pompeo, le secrétaire d'État, John Kelly, le chef du personnel de la Maison-Blanche. J'ai essayé de joindre Jim Mattis, le secrétaire à la Défense, pour leur dire, tout le monde sur le pont, j'ai l'impression que c'est très grave.
Le retrait des États-Unis semble être une possibilité bien réelle.
Il allait me remplacer par quelqu'un qui ne discuterait pas et répondrait oui à des idées comme celle de sortir de l'OTAN. Que je lui ai parlé, il était assis à la grande table de la salle de réunion de l'OTAN. Il m'a fait venir et m'a dit, alors, on le fait? Je lui ai répondu, vous pouvez aller jusqu'à la limite, mais ne la dépassez pas. Puis je me suis rassis. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire.
Avec un président normal, ça aurait été vu comme du
bluff.
Parce que les gens savent que les États-Unis ont autant besoin de l'OTAN que l'OTAN a besoin d'eux. Personne ne l'aurait pris au sérieux. Il donne l'impression qu'il ne se rend pas vraiment compte de ce que l'Alliance signifie et qu'il ne comprend ni l'histoire, ni nos raisons d'agir.
Pour lui, le monde fonctionne de manière transactionnelle. C'est du donnant-donnant. Qu'est-ce que je gagne à assurer la sécurité? Pourquoi suis-je désavantagé dans mon accord avec l'OTAN? Il n'a pas compris que l'OTAN permettait aux États-Unis de profiter d'une stabilité et d'une sécurité mondiale. Pour lui, il s'agit d'un simple marché. Vous me donnez ça et je vous donne autre chose. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'OTAN.
L'étude stratégique de Londres et la Fondation Kerber charge des experts en sécurité d'organiser une simulation. Des représentants allemands, français, britanniques, polonais et américains y participent. L'opération se déroule en secret. Aucun lieu ni aucun nom n'est rendu public. Nora Müller est responsable du département de politique internationale à la Fondation Kerber.
Lors de ces scénarios d'exercice, on invite des représentants gouvernementaux mais aussi des personnes du milieu universitaire et du monde des think tanks, issus de différents pays. Pays qui sont justement pertinents pour le scénario joué. Une des règles primordiales de ces exercices de simulation, c'est que la liste des participants reste confidentielle.
Législature de Trump, les États-Unis annoncent leur retrait de l'OTAN. Il n'est pas question ici d'un scénario militaire, mais d'un scénario politique. Quelles concessions les pays membres seraient-ils prêts à faire? Amon explose sous la pression des menaces américaines.
L'équipe allemande s'est montrée tout à fait disposée à mettre le thème de la politique commerciale sur la table. Les Polonais, eux, ont rapidement décidé d'engager le dialogue avec les Américains en leur proposant « Tiens, et si on concluait un accord bilatéral de sécurité en dehors du cadre de l'OTAN ? » C'était évidemment la grande crainte des autres acteurs de cette simulation. En effet, conclure des accords de sécurité bilatéraux directement avec les États-Unis reviendrait à saper la structure de l'OTAN.
Pencher sur l'histoire de l'OTAN.
D'après eux, ce qui risquerait d'arriver, ce serait un retour à une série d'alliances bilatérales entre deux, voire trois États d'Europe. Ce qu'ils ont prédit, ce serait le retour à un système d'alliances assez bancal, comme il en existait en Europe avant la Seconde Guerre mondiale et dans certains cas avant la Première Guerre mondiale. Ils ont eu peur que ça puisse créer une situation dangereuse et instable, où les pays auraient des obligations différentes en matière de sécurité, ce qui pourrait créer un effet domino si un conflit venait à débuter.
Ne cesse d'aborder le sujet de l'OTAN.
So much out of it. And you know, I hate to tell you this about NATO. If we ever needed their help, let's say we were attacked, I don't believe they'd be there.
Il risque de se retirer de l'OTAN. Il abandonnera aussi probablement l'Ukraine. Et qui sait ce qu'il fera d'autre? Ce serait très destructeur et très contre-productif. Je pense que Trump se retirera de l'OTAN parce que ça fait longtemps qu'il a envie de le faire. Il est peut-être frustré de ne pas avoir pu le faire lors de son premier mandat. Il doit penser que c'est ma faute et celle de plusieurs autres personnes. S'il fait un deuxième mandat, il ne s'embarrassera pas de gens comme moi, croyez-moi.
Les présidents d'un grand pays ont dit: Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Came flowing in. We were like the stupid country of the world, and we're not going to be the stupid country of the world any longer. We're not going to be.
Le véritable danger n'est pas le retrait des États-Unis de l'OTAN. D'ailleurs, le Congrès a voté une loi en 2019 pour que ce soit bien clair. Le président n'a pas le pouvoir de rompre le traité de Washington. Les décisions concernant les traités passent obligatoirement par le Congrès. Le vrai danger, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique de la part du président de la Maison-Blanche, que ce soit Trump ou un autre, d'agir en cas d'agression. Cela veut dire que, même si Trump est réélu, et qu'il ne quitte pas l'OTAN parce que le Congrès américain l'en empêche, il peut toujours dire, en cas d'agression, « je ne fais rien ». Le Congrès américain peut toujours déclarer la guerre, c'est sa prérogative. Mais comme le président est aussi le chef des armées, il peut très bien décider de ne pas déployer les troupes.
Un nouvel équilibre des puissances mondiales émerge.
D'une part, la société américaine évolue. D'autre part, la Chine constitue une menace, car elle est le seul acteur capable de rivaliser avec les États-Unis. La Russie ne compte pas, elle joue dans une toute autre catégorie. Mais la perception de la menace chinoise a largement augmenté.
La chinoise se classerait juste derrière celle des États-Unis. Elle devrait être entièrement modernisée d'ici 2035. Pour l'heure, elle détient le record de la plus grande flotte au monde. Les satellites montrent de petits atolls vierges en mer de Chine, sur lesquels ont été construites d'immenses bases militaires chinoises. Envers Taïwan et d'autres pays asiatiques. On compte également sur l'aide des États-Unis et de l'OTAN.
Qui revient souvent depuis la guerre en Ukraine. Pouvons-nous être actifs de la même manière sur les deux fronts, dans les deux régions? Toutes nos dépenses pour l'Ukraine, toutes les armes et le soutien qu'elle reçoit de notre part, ne devrait-on pas en faire aussi bénéficier Taïwan? Voilà les débats qui agitent les États-Unis en ce moment.
En 2019, j'étais aux États-Unis et avec ma délégation, on discutait de la Russie. Et là, les Américains nous ont dit: « La Russie, c'est votre problème. C'est un problème européen, ce n'est plus le nôtre. Débrouillez-vous. » Et ça ne changera pas. Même si dans 20 ans, nos relations avec la Russie sont meilleures, les Européens doivent se faire à l'idée qu'en cas d'urgence, les États-Unis ne pourront peut-être rien faire, parce qu'ils seront occupés ailleurs.
Le principal défi des Européens à l'avenir sera de montrer qu'ils peuvent aussi être utiles et que ce ne sont pas des profiteurs de la puissance américaine.
Et sur l'Union européenne, l'article 42 prévoit déjà une obligation d'assistance similaire à l'article 5 de l'OTAN.
Les États-Unis n'auraient pas la puissance militaire qu'on leur connaît sans cette gestion centralisée. C'est pour cette raison qu'une armée européenne sous un commandement unique serait assez improbable. Nous ne sommes pas un seul pays comme les États-Unis. L'Union européenne est composée de 27 pays qui ne se laisseront jamais déposséder de leur pouvoir de décision sur une intervention militaire par un poste de commandement centralisé à Bruxelles, par exemple.
Une armée européenne devrait être étudiée plus longuement.
Ce que pourraient faire les Européens, c'est aligner leurs armées de façon qu'elles soient complémentaires, qu'elles fonctionnent ensemble. Leur force de dissuasion vis-à-vis de la Russie ne serait pas suffisante. Mais au moins, ils auraient une base pour pouvoir mener des missions de petite et moyenne envergure.
Un diplomate britannique a dit un jour qu'à chaque fois que l'OTAN est en difficulté, les Russes viennent la sauver.
L'OTAN redevient petit à petit ce pourquoi elle a été créée en 1949. Une alliance pour contenir Moscou.
C'est la plus grande épreuve qu'on ait jamais subie, nous, Européens et Allemands bien sûr, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une petite crise que l'on peut gérer facilement.
Vos défis.
La puissance militaire de tous les pays européens réunis est trop faible par rapport à celle des États-Unis.
Pour qu'une politique de défense européenne puisse fonctionner sans l'OTAN, il faudrait des décennies et des moyens bien supérieurs aux 2% exigés par l'OTAN actuellement.
Il ne suffit pas d'allouer des fonds, il faudrait aussi produire. Il faudrait fabriquer des systèmes d'armement communs dont l'Europe ne peut que rêver, car elle ne les a pas.
L'effet semble épuisé. La politique de défense est redevenue une politique à la petite semaine.
En s'y préparant au mieux et en disant à la personne qui a lancé cette attaque contre son voisin il y a un peu plus d'un an, tu n'y arriveras pas.
On doit toujours relever le même défi qu'à ses débuts. Éviter la guerre.